Henri de Régnier, La double maîtresse, première partie, chapitre 2. Madame de Galando fit grande figure de veuve et la maintint avec une rigueur exceptionnelle au-delà même du temps que prescrit l'usage. Elle le suivit et le dépassa. Elle renonça à toute parure pour un vêtement uniforme qu'elle ne quitta plus. Elle referma pour toujours la cassette sur les bijoux dont son mari aimait à la voir ornée. Les riches robes qu'aux occasions elle portait pour lui plaire, des grandes armoires de chaînes et des coffres à ferrures y restèrent désormais pendues ou pliées. Celles qui n'avaient point encore été taillées demeurèrent à la pièce. Ce ne fut pas seulement à son vêtement que Madame de Galando apporta un changement qui survécut aux circonstances et persista assez pour qu'on y pût voir un projet bien médité de vivre selon un plan nouveau. Peu après, elle réforma également autour d'elle tout ce qu'elle avait concédé à l'humeur du feu comte, que, gourmand et vain, elle satisfit en ce double penchant, par une table bien fournie de mets et par une antichambre bien garnie en laquais. La livrée et la bouche étaient deux dépenses auxquelles elle consentit par condescendance, mais qu'elle n'aima point. Aussi, une fois veuve et libre d'agir à son gré, y mit-elle promptement fin. Elle congédia les marmitons et les valets et ne garda auprès d'elle que le nécessaire pour ouvrir la porte et tourner la broche. Des nombreuses chambrières attachées à sa personne, elle ne conserva pour son service particulier que les deux plus âgées qui suffisaient amplement à l'entretien de sa lingerie et aux soins de sa garde-robe, et encore, le plus souvent se passait-elle de leur aide, préférant s'habiller, se coiffer et se recoudre elle-même, ce qu'elle n'eût certes point risqué de faire au temps de M. de Galando, qui détestait même les menus ouvrages auxquels se distraient d'ordinaire les femmes et dont il ne souffrait guère que la sienne s'occupât. La simple vue d'une aiguille ou d'un dé l'agaçait. Il aimait qu'on fût oisif et qu'on passât des heures assis, l'un devant l'autre, en de larges fauteuils, bien parés et à discourir de la pluie ou du beau temps. Il n'avait guère de goût que pour le jeu, moins ceux de cartes que tels autres, non les échecs par exemple, dont la difficulté le fatiguait vite, mais les jonchets, qui le divertissait infiniment. De sa belle main grasse, sortant des dentelles de la manchette, il débrouillait l'enchevêtrement capricieux des petites figures taillées dans l'os ou l'ivoire et mettait à cette tactique une patience et une dextérité remarquables. Or, ce passe-temps de cabinet, celui qui prenait le plus volontiers était de se promener au grand air des jardins. Ceux de Pont-au-Bel passaient pour fort beaux et leur entretien coûtait cher en jardiniers de toutes sortes, les uns pour les fleurs, les autres pour les arbres, sans compter ceux qui veillaient aux fruits, aux légumes et aux plantes potagères. Madame de Galando mit bon ordre à ce train superflu. Elle se conserva à un certain Hilaire, expert aux semis, aux greffes et aux tailles, capable de lui tenir en état ses espaliers et ses plates-bandes. Pour le reste, elle s'en remit à la nature, qui fait pousser les arbres d'eux-mêmes, et se contenta de faire de temps en temps, avec l'aide de quelques paysans, émonder les charmilles, et sarcler les allées où le pauvre monsieur de Galando s'était promené si souvent, se baissant pour ramasser proprement une feuille oubliée par le râteau et qu'on retrouvait morte le matin dans ses poches quand on les retournait pour les vider en brossant son habit. Comme on cessa de réparer les conduites d'eau des bassins, ils devinrent moins limpides, et l'un d'eux, situé au bout du parc, tarit presque. Mais madame de Galando entendait avant tout s'éviter la charge de ses agréments dispendieux. Quand tout fut à son gré, elle n'y changea plus rien. Elle avait, pour ainsi dire, complété son caractère et s'y tenait. Chaque jour, elle s'asseyait à une table, également frugale et sobrement servie. Elle s'enlevait pour regagner son appartement qu'elle ne quittait guère et où elle passait son temps en oraison et en compte, étant de pieuse devenue dévote et d'ordonnée plus qu'avare. Les économies n'avaient point porté que sur les gens. Les écuries furent vidées. Le comte détestait la chasse et l'équitation et n'avait jamais eu ni meute ni bête de sel, mais son humeur pompeuse et vaine se plaisait assez aux beaux attelages. Il voyait là un attribut de gentilhomme et n'eût manqué pour rien au monde à en user. Aussi nourrissait-il plusieurs paires de fort beaux chevaux qu'il tirait à grands frais d'Allemagne, une d'alezan doré, une autre de blanc, la troisième de gris pommelé, une encore de disparate et la dernière de hongre-pie, dont il ne se montrait pas peu fier. C'est cela qu'on attelait au grand carrosse doublé de satin rouge à crépines d'or, aux housses armoriées, où montaient M. et Mme de Galando en habit de cérémonie pour visiter le voisinage, ce qui avait lieu chaque année d'ordinaire au premier jour de printemps. L'air frais d'avril entrait par les glaces baissées. La route sonnait au fer des chevaux. Parfois, une ornière faisait pencher le carrosse, car les pluies de l'hiver avaient raviné le terrain. Des oiseaux coupaient le ciel d'un vol vif. Un lièvre déboulait d'un champ et traversait le chemin. Les paysans saluaient au passage. Dans les hameaux, sur le pas des portes, des femmes regardaient venir le noble équipage. On entendait le bruit d'une enclume ou le grincement d'une corde de puits. On respirait une odeur d'étable ou un parfum de grange, et les polissons, qui avaient suivi le carrosse à la course, s'arrêtaient essoufflés, tandis qu'un chien jaune l'accompagnait plus loin, et là, d'aboyer aux roues, finissait par le devancer, et on le voyait haletant lever la patte contre un tas de cailloux, et pisser là, la cuisse haute et la langue pendante. Parfois, l'arrivée des visiteurs réveillait le chenil et son concert discordant de voix furieuses et rauques et de fossés glapissants. Derrière les grillages, on distinguait des gueules roses, des babines sanguinolentes et des crocs acérés. Marchepied abaissé, la portière ouverte, monsieur et madame de Galando descendaient sur le sable d'une cour ovale devant un perron de pierre. Monsieur d'Estanse les recevait aux meutes. Il baisait la main de madame de Galando et frappait familièrement sur l'épaule du comte qui supportait cette privauté par égard pour la considération dont jouissait dans le pays le vieux gentilhomme. Il s'était retiré du service avec le grade de maréchal de camp après maintes campagnes et de beaux états à la suite d'une blessure qui ne guérit qu'à moitié. On voyait au mur son portrait qui le représentait en pied, bras tendus et la main dans un gant de buffle gris à dentelle d'or, sa cuirasse barrée du cordon rouge et, debout sur un tertre, où brûlait parmi des éclats d'armes une grenade. Il y avait assez loin du personnage militaire figuré sur la toile à l'hôte rustique qui accueillait ses voisins de Pont-au-Bel. M. d'Estanse portait un vieil habit chamois rapiécé, de longues guêtres et des galoches à gros clous, avec cela une barbe de 3 jours. Le plus souvent, on le trouvait, la carnassière au côté et le fusil à la main, car il se distrayait à abattre les pies et les corneilles en attendant les grandes chasses d'automne où il découplait sa meute qui parfois faisait l'alali jusque sur les terres de Pont-au-Bel. Ce train ne plaisait guère à Madame de Galando, soucieuse du bon état de ses champs, dont elle n'osait pas refuser l'entrée à Monsieur d'Estanse, qui, en échange du procédé et en compensation du dégât, fournissait l'office du château de quartier de venaison et de maint autre gibier. Le plus proche voisin de M. d'Estanse était M. Lemélier, ancien conseiller au Parlement. Il était riche et allié par sa femme, dont il était veuf, au marquis de Blimont, qui, avec M. le comte de Galando, se trouvait le seigneur le plus considérable du pays. M. de Blimont habitait un fort antique château et avait, disait-il plaisamment, autant de filles que de tours. Elles se montaient en tout à 10. Les 5 demoiselles de Blimont étalaient des grâces corpulentes et des teints fleuris. Elles contrastaient par leur embonpoint avec la maigreur de leur père et rendaient plus singulière encore sa complexion malingre et sa mine chafouine. Quant à la mère, une lettre de cachet la tenait enfermée depuis longtemps dans un couvent, ce dont le marquis se louait chaque jour en se souvenant des escapades où sa galante compagne avait aventuré son honneur à toute main. Quand le carrosse des Galando avait visité toutes les gentilhommières dont les maîtres valaient la peine qu'on s'y arrêtât, il se dirigeait vers la ville. Les Galando y fréquentaient peu et seulement l'indispensable, bien qu'ils y possédassent un hôtel où, du reste, ils ne séjournaient jamais et dont les volets et le portail restaient clos tout le long de l'année. On ne les voyait guère qu'à 5 ou 6 portes et à celle de l'évêché. C'était une fort belle maison de pierre. L'évêque y résidait peu, mais le diocèse l'estimait pour sa bonne tournure épiscopale, ses rochers de fine dentelle et la renommée qu'il s'était acquise ailleurs, autant par ses talents réels pour la chaire que par ses hautes vues de politique ecclésiastique, et Madame de Galando ne manquait pas chaque année de poser à l'anneau pastoral le baiser de ses belles lèvres froides. Elle ne les desserrait guère par contre chez les Berville. Monsieur de Berville portait sabots et patoisait, et ce n'était pas non plus sans quelque peine qu'elle consentait à descendre un instant chez les Dufresnay. Ces bonnes gens, apparentés de fort loin au Mosseuil, possédaient au Fresnay une agréable demeure. Dès l'entrée, on y respirait une odeur de pâtisserie cuite et d'essence distillée. Madame Dufresnay excellait à confire des fruits et à composer des friandises de sa façon. Elle apparaissait toute rose, les manches retroussées sur ses bras poudrés de sucre. On la surprenait en train de mélanger en des bassines des ingrédients délicats dont elle tirait des bonbons exquis et des élixirs délicieux. Elle connaissait les mérites divers des cédras et des limons, de la coriandre et du clou de girofle, et de toutes les drogues qui servent à réjouir la bouche et à divertir l'estomac. Si elle excellait à flatter le palais, elle savait aussi amuser Louis. La maison retentissait de concerts perpétuels, car M. Dufresnay jouait du violon à ravir, et Mme Dufresnay accompagnait à merveille, au clavecin, sa voix qu'elle avait d'un timbre charmant. C'était d'ailleurs un ménage fidèle et tendre, uni en ce double goût de la friandise et de la musique, mais que sa parenté avec les Mousseuil rendait suspect à la vindicative Madame de Galandeau. À cela s'ajoutait que pour aller au Fresnay, il fallait passer tout contre Bas-le-Pré, et que Madame de Galandeau détestait la vue de ces quatre tourelles dont les pointes aiguës lui entraient dans le souvenir comme de malfaisantes aiguilles. Si le comte s'en tenait avec ses voisins à une politesse cérémonieuse, Madame de Galandeau, pour sa part, restait sur un pied de haute réserve envers leur femme. Son caractère hautain les maintenait à un éloignement voulu. À les voir peu, on prêtait moins à leur bavardage. Les prétextes manquaient ainsi à leur caquet. Or, leur principal grief, qui était contre Madame de Galandeau, sa retenue excessive, les langues ne trouvaient guère à son endroit ces traits précis et exacts que fournit seule l'intimité et dont se nourrit et se fortifie la médisance, qui, sans eux, s'épuise ou tâtonne, imagine ou suppose, et n'a point, pour s'exercer, d'aliments substantiels, faute de quoi elle reste générale, indécise et plus piquante que dangereuse. Tellement c'est en nous-mêmes qu'on prend le mieux de quoi nous dénigrer et qu'il est prudent de ne point s'offrir en pâture aux dents d'autrui. Madame de Galandeau donnait donc à reprendre en gros, succinctement et à distance. On ne s'en privait pas à la ville, surtout où elle avait irrité certaines prétentions et déconcerté certaines entreprises. Quelques-unes de ces dames, dans les premières années du mariage de Madame de Galandeau, voulurent, si l'on peut dire, forcer la porte de la nouvelle châtelaine. Elle les éconduisit, l'une après l'autre, avec une adresse et une fermeté parfaites, et, par une habile manœuvre, en arriva à ses fins. Elle les relégua à bonne longueur et les y maintint, si bien que, ses relations mises au point où elle les désirait, elle ne les laissa jamais plus se départir du caractère qu'elle leur sut imposer. En cela, elle obéissait moins à un calcul qu'à un instinct qui, poussé selon son humeur personnelle, l'eût sans doute mené plus loin qu'il n'eût convenu à son mari, qui tenait fort à rester en assez bons termes avec tout le monde pour mériter la réputation de politesse qu'on lui reconnaissait partout. À ces causes, Madame de Galandeau n'alla pas jusqu'au bout de ses dispositions, et le grand carrosse attelé de chevaux d'Allemagne continua chaque année à conduire le couple à ses devoirs d'usage. Aussi, le comte mort fut-il poliment convoyé par tous ceux qu'il avait si poliment visités, mais sa femme augmenta dans son veuvage l'écart où elle s'était toujours tenue. Son nouvel état la dispensa pendant un temps de ses corvées annuelles, et ensuite, quand elle eut pu les reprendre, plusieurs avaient cessé d'elles-mêmes. Il sévit à la ville une épidémie de petites véroles qui ferma trois ou quatre des maisons qui visitaient M. et Mme de Galandeau. M. d'Estanse était mort la même année que le comte, et peu après lui. Le marquis de Blimont quitta le pays avec ses cinq filles pour une ambassade où il les emmena et en maria deux à des barons allemands, l'une en Souabe, l'autre en Thuringe, et une troisième en l'électorat de Cologne à un jeune conseiller au Lic qui l'engrossa et lui fit réparation. Ce qui restait s'accoutuma fort bien à ce que Madame de Galandeau ne sortit plus de Pontaubel. D'autres devoirs l'y retenaient et elle s'y voua tout entière. Les terres que comportait la seigneurie de Pontaubel étaient considérables et leur administration eut pesé à une femme de moins de tête que Madame de Galandeau. Elle en prit la charge et s'y donna avec plus de soin encore qu'auparavant. Dieu favorisa ses efforts. Elle le priait et, sans doute, l'en priait. La religion prit une grande place dans sa vie. Elle ne manifestait pourtant pas sa piété par des œuvres extérieures, car elle demeura toujours parcimonieuse et dure aux pauvres. Elle distribuait peu, et l'évêque, M. de la Grangère, qui admirait sa vertu, ne pouvait pas tout de même louer sa charité. Il disait d'elle qu'elle était une âme au pain sec, voulant sans doute faire entendre par là son honnête sécheresse. Il lui manquait l'onction des grandes chrétiennes. Elle était plus selon l'Église que selon le Christ, sa foi était plus vraie qu'efficace. La dévotion n'y ajoutait aucune douceur. Son élan d'âme était une montée de l'esprit, toute verticale, sans épanchement ni rosée. Madame de Galando était donc à la fois une personne pratique et pieuse. Son caractère se faisait sentir en châtaigne, par ses pointes qui étaient aiguës et dures, mais demeurait caché quant à sa substance intime. L'aspérité s'en dissimulait par le fait même qu'elle trouvait peu d'occasion de se montrer, car Madame de Galando avait tout établi autour d'elle de façon à être à l'aise dans sa nature, sans que rien la pût contrarier, de telle sorte qu'il était fort difficile d'en pénétrer l'intrinsèque. Aussi, quand l'abbé Hubertet vint habiter Pontaubel, sur la recommandation épiscopale de Monsieur de la Trangère, qui lui obtint en 1730 l'éducation du jeune Nicolas de Galando, il ne vit d'abord en sa mère qu'une dame noble et majestueuse. Elle avait alors 46 ans, le visage plein et reposé, mais avec une tendance à jaunir, la taille gâtée et épaissie, mais encore plutôt maigre que grasse, avec un grand air de hauteur et d'autorité. L'abbé resta incertain du reste. D'ailleurs, il ne s'y acharna pas et reporta tous ses soins sur le jeune Nicolas qui lui tombait à l'improviste entre les mains. L'abbé Hubertet était un excellent choix. Jeune encore et fort savant, il se trouvait en tout point parfaitement capable de ce qu'on attendait de lui. Sa laideur faisait passer son âge aux yeux de Madame de Galando. Il avait 32 ans quand il débarqua à Pontaubel avec son petit bagage qui ne contenait guère plus que quelques nippes et quelques livres. On était en hiver. Il faisait froid et bien qu'il ne fût pas tard, presque nuit. Nicolas croisa dans le corridor le nouveau venu qui gagnait sa chambre pour s'y apprêter avant de descendre en présence de Madame de Galando. Dans l'obscurité, Nicolas ne parvint point à voir le visage de son maître. Aux chandelles, l'abbé Hubertet montra une grosse figure aux joues rouges et comme fardée, des lèvres rebordées, des yeux petits et fins, des mains épaisses, des mollets maigres et un ventre proéminent, en tout un ensemble favorable et jovial. Il portait une perruque ronde, un collet noir et le rabat bleu. Entré dans l'église par vraie piété, il n'y avait guère trouvé d'accueil. Les ordres réguliers le répugnèrent. Ils lui offraient, chacun selon la règle, une vie de mendiant, de goujat ou de policier. Aussi ne se résigna-t-il à devenir ni cordelier, ni franciscain, ni jésuite. Les couvents de haute prière ou de travail, Trappes ou Chartreuse, l'épouvantèrent par la durée de leurs vœux. La perspective du cloître et de la discipline l'en éloigna non moins que la pensée de subir un supérieur. Quoique prêtre, il entendait rester libre. Serviteur de Dieu à la foi et des hommes lui paraissait être trop. Le clergé séculier le reçut donc, mais il y serait mort de faim, ni content, ni protecteur, ni patron. Il faut une figure pour confesser, pour prêcher ou pour instruire, et la sienne, bien qu'il fût ingénieux, éloquent et savant, eût fait rire. Les dévotes aiment l'absolution d'une belle main, et la parole de Dieu ne les touche que par une bouche qui n'en grimace pas trop humainement les préceptes divins. Les éducations de grandes maisons lui étaient également interdites. On veut d'un précepteur à prestance. Les emplois domestiques et les aumôneries échoient à qui sait en remplir la fonction, non seulement par son mérite, mais aussi et déjà par sa mine. Restaient les bénéfices. Ils sont rares. L'abbé le savait, et l'évêque, M. de la Grangère, qu'il avait connu à Paris et s'intéressait à lui, l'en avertit. Ne pouvant lui en procurer un, le prélat lui offrit l'éducation provinciale et obscure du jeune Nicolas de Galando. C'était le vivre et le couvert, des gages modestes, mais le temps d'attendre que quelque chose vaquât. Cela sauvait l'abbé des difficultés d'une vie que servait mal à soutenir quelques messes au rabais qu'il fallait mendier à la porte des sacristies et quelques mauvais travaux de librairie qui rapportaient à peine le papier, l'encre et la chandelle qu'il coûtait. Aussi, l'abbé quitta-t-il avec joie Paris et le galeta du haut de la rue Saint-Jacques, où il gelait l'hiver et étouffait l'été, pour la résidence de Pontaubel, où l'attendait bon lit et sinon bonne table, au moins nourriture saine et solide. Son appétit avait trop souffert des jeûnes de la pauvreté et des regatons de la gargote pour ne pas apprécier la régulière pitance du château, et quand le bénédicité une fois dit Il s'asseyait, la serviette au menton et les mains croisées sur sa bedaine, il éprouvait un juste plaisir à voir soulever le couvercle de la lourde soupière et à voir la fumée du potage suinter en gouttelettes moites sur la grande louche d'argenterie qu'on y plongeait. Aussi ne cachait-il pas sa gratitude à monsieur de la Grangère, qui, de son côté, appréciait fort d'avoir là, à sa portée, un serviteur humble et discret, toujours disposé à lui composer une homélie, un sermon, un panégyrique, voire même un petit carême dont il ornait sa mémoire et tirait grande réputation d'éloquence et de doctrine. Quant à l'abbé Hubertet, il s'estimait heureux, pourvu qu'après avoir achevé quelques belles pièces oratoires, il la pût débiter à l'aise dans quelque coin du jardin où il allait, gesticulant et prêchant aux arbres, la calotte de travers et le rabat en désordre. Outre celui-là, son principal divertissement consistait à s'enfermer dans la bibliothèque et à y passer son loisir. Elle était riche et formée d'assez bons ouvrages. Le feu comte y avait rassemblé un grand nombre de toutes sortes de livres, beaucoup en langue latine et grecque, et le tout fortement relié en solides peaux de veau et portant au plat l'écusson de leur possesseur, car le bonhomme s'occupait davantage de leur parure que de leur contenu et ne le considérait que comme l'attribut d'un bon gentilhomme, au même titre que ses manchettes, ses boucles de souliers, sa canne et son carrosse. Il n'aurait pas plus souffert que son château de Pontobel manquât de cave que de bibliothèque, seulement il puisait plus volontiers aux unes qu'à l'autre. Aussi n'eut-il de cesse de voir sa librairie considérable et en accord avec le train de sa maison et l'importance de toute sa personne. Il y venait chaque jour dans l'après-midi. L'été surtout, le comte goûtait les avantages du lieu, car la pièce était fraîche et silencieuse. Il s'asseyait dans un grand fauteuil de cuir cordouan, devant une table chargée d'une lourde écritoire d'argent massif, pourvue de poudre de toutes les couleurs et de plumes d'oie qu'il taillait avec soin. La plupart du temps, il en restait là. Quelquefois, il se penchait, prenait une large feuille de papier et posément y écrivait son nom, soignant le caractère et le paraphe, le compliquant et l'enjolivant jusqu'à en faire une sorte d'arabesque inextricable dont il laissait sécher les entrelacs. Plus souvent encore, il croisait sa jambe droite sur sa gauche, posait sa tabatière sur la table, choisissait une des mouches qui volaient autour de lui et la suivait attentivement des yeux jusqu'à ce qu'il eût perdu sa piste ailée, puis recommençait ce manège jusqu'à ce qu'il finît par s'endormir, la tête inclinée sur l'épaule et la bouche ouverte. À son réveil, il rajustait avec soin son jabot et ses manchettes, faisait le tour de la pièce, regardait les tablettes chargées de livres, comme pour bien se pénétrer par leur aspect de ce qu'il pouvait renfermer, et se composait un visage méditatif qui semblait garder le reflet des plus graves pensées. L'abbé Hubertet fit un tout autre usage de la bibliothèque. Les reliures paresseuses s'ouvrirent entre ses mains actives. Les volumes quittèrent les rayons et s'empilèrent sur la table qui se couvrit de papier rapidement griffonné. Il se courba sur les textes et rendit à leur destination ses beaux instruments de science. C'est là aussi que chaque jour il donna ses leçons à Nicolas de Galando. L'abbé, qui était là depuis l'aube, repoussait ses paperasses et souriait à son élève qui le saluait et s'asseyait devant lui, attentif, et étonné.